Entre-temps, à l'école, ma bien-aimée avait repris sa solitude ambulatoire. Mais je savais désormais qu'elle n'était pas inaccessible. Aussi la collège, à chaque récréation, inconsciente de la sottise d'une telle méthode. Je marchais à côté d'elle en lui parlant. Elle semblait à peine m'entendre. Cela m'était presque égal. Son extrême beauté m'empêchait de penser. Car Elena était vraiment superbe. Sa grâce italienne, exquise de civilisation, d'élégance et d'esprit, se mêlait au sang amérindien de sa mère, avec tout le lyrisme sauvage des sacrifices humains et autres admirables barbaries que ma naïveté pittoresque y attache encore. Le regard de la belle distillait à la fois le curare et Raphaël. De quoi tomber raide mort en une seconde. Et la petite fille le savait bien. Ce jour-là, dans la cour de l'école, je ne pus m'empêcher de lui dire ce grand classique qui, dans ma bouche, était un inédit d'une sincérité sans bornes. « Tu es si belle que pour toi je ferais n'importe quoi. » « On me l'a déjà dit, » observa-t-elle avec indifférence. « Mais moi c'est vrai, » enchaînai-je, consciente du « in cauda venenum » que sous-entendait ma réponse, eu égard à la récente affaire Fabrice. J'eus droit à un petit regard narquois qui semblait dire « Tu crois que tu me blesses ?» Car il fallait en convenir. Autant le français avait souffert de la rupture, autant l'italienne n'avait rien ressenti du tout, prouvant ainsi qu'elle n'avait jamais aimé son fiancé. « Alors tu ferais n'importe quoi pour moi ?» reprit-elle d'un ton amusé. « Oui, » dis-je, espérant qu'elle m'ordonnerait le pire. « Eh bien... « Je veux que tu fasses 20 fois le tour de la cour en courant, sans t'arrêter. » À l'énoncé, l'épreuve me parut dérisoire. Je partis à l'instant. Je courais comme un bolide, folle de joie. Mon enthousiasme décrut dès le 10e tour. Il chuta davantage quand je constatai qu'Elena ne me regardait pas, et pour cause. Un ridicule était venu lui parler. Je remplis néanmoins mon contrat, trop loyal, trop sotte pour mentir. Puis je vins au-devant de la belle et du tiers. « Voilà » dis-je. « Quoi » daigna-t-elle demander. « J'ai fait 20 fois le tour de la cour. »« Ah, j'avais oublié. »« Recommence, je ne t'ai pas vue. » Je repartis à l'instant. Je vis qu'elle ne me regardait pas davantage, mais rien n'eût pu m'arrêter. Je découvrais que j'étais heureuse de courir. Ma passion trouvait dans la vitesse des foulées une noble manière de s'exprimer, et à défaut de récolter ce que j'espérais, j'éprouvais de grands élans de ferveur. « Revoilà !»« Bien, » dit-elle sans avoir l'air de me remarquer. Encore 20 tours. Ni elle ni le ridicule ne semblaient même me voir. Je courais, je me répétais avec un début d'extase que je courais par amour. Simultanément, je sentais l'asthme s'emparer de moi. Pire, je me rappelais avoir dit à Elena que j'étais asthmatique. Elle ne savait pas ce que c'était et je lui avais expliqué. Elle m'avait écouté avec intérêt pour une fois. Elle m'avait donc donné cet ordre en pleine connaissance de cause. Au terme des 60 tours, je revins à ma bien-aimée. « Recommence !»« Tu te souviens de ce que je t'avais dit ?» demandai-je timidement. « Quoi donc ?»« L'asthme. »« Crois-tu que je te demanderais de courir si je ne m'en souvenais pas ?» répondit-elle avec une indifférence absolue. Subjuguée, je repartis. État second, je courais. Une voix soliloquait dans ma tête. « Tu veux que je me sabote pour toi ? C'est merveilleux. C'est digne de toi et digne de moi. Tu verras jusqu'où j'irai. » Saboter était un verbe qui trouvait du répondant en moi. Je n'avais aucune notion d'étymologie, mais dans « saboter », j'entendais « sabot ». Et les sabots, c'était les pieds de mon cheval. C'était donc mes pieds véritables. Elena voulait que je me sabote pour elle. C'était vouloir que j'écrase mon être sous ce galop. Et je courais en pensant que le sol était mon corps et que je le piétinais pour obéir à la belle et que je le piétinerais jusqu'à son agonie. Je souriais à cette perspective magnifique et j'accélérais mon sabotage en passant à la vitesse supérieure. Ma résistance m'étonnait. Le vélo intensif, l'équitation, m'avait donné un sacré souffle en dépit de l'asthme. Il n'empêchait que je sentais la crise monter. L'air arrivait de moins en moins, la douleur devenait inhumaine. La petite Italienne n'avait pas un regard pour ma course. Mais rien, rien dans ce monde n'eût pu m'arrêter. Elle avait pensé à cette épreuve parce qu'elle me savait asthmatique. Elle ignorait à quel point son choix était judicieux. L'asthme, détail, simple défaut technique de ma carcasse. En vérité, ce qui comptait, c'était qu'elle me demandait de courir. Et la vitesse, c'était la vertu que j'honorais, c'était le blason de mon cheval, la pure vitesse dont le but n'est pas de gagner du temps, mais d'échapper au temps, et à toutes les glues que charrie la durée, au bourbier des pensées sans liesse, des corps tristes, des vies obèses et des ruminations poussives. Toi, Elena, tu étais la belle, la lente, peut-être parce que toi seule pouvais te le permettre, toi qui marchais toujours au ralenti, comme pour nous laisser t'admirer plus longtemps. Tu m'avais, sans doute à ton insu, ordonné d'être moi, c'est-à-dire de n'être rien d'autre que ma vitesse hébétée, bolide ivre de sa course. Au 88e tour, la lumière se mit à décliner. Les visages des enfants noircirent, le dernier des ventilateurs géants cessa de fonctionner. Mes poumons explosèrent de souffrance. Syncope. Quand je repris connaissance, j'étais au lit, chez moi. Ma mère me demanda ce qui était arrivé. « Les enfants ont dit que tu n'arrêtais pas de courir. » Je m'exerçais. « Jure-moi que tu ne le feras plus. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi ?» Je finis par tout avouer, par faiblesse. Je voulais qu'au moins une personne fût au courant de mon héroïsme. J'acceptais de mourir par amour, mais il fallait que cela se sût. Ma mère se lança alors dans une explication des lois de l'univers. Elle dit qu'il y avait sur Terre des personnes très méchantes et en effet très séduisantes. Elle assurait que si je voulais me faire aimer de l'une d'entre elles, il y avait une seule solution. Il fallait que je devienne très méchante avec elle, moi aussi. « Tu dois être avec elle comme elle est avec toi. »«
Mais c'est impossible, elle ne m'aime pas. »«
Sois comme elle et elle t'aimera. » La sentence était sans appel. Je la trouvais absurde. Moi, j'aimais qu'Elena n'ait pas mes manières. À quoi pouvait rimer un amour conçu comme un miroir? Je résolus néanmoins d'essayer la technique de ma mère, ne fût-ce qu'à titre expérimental. Je partais du principe qu'une personne qui m'avait appris à lacer mes souliers ne pouvait pas dire n'importe quoi. Les circonstances favorisèrent cette politique nouvelle. Au cours d'une bataille, les Alliés avaient capturé le chef de l'armée allemande, un certain Werner, que nous n'avions jamais pu saisir jusqu'alors et qui, à nos yeux, incarnait le mal. Nous exultions. Il allait voir ce qu'il allait voir. Il aurait droit au grand jeu. C'est-à-dire à tout. Le général fut ligoté comme un saucisson et bâillonné à alouette mouillée. Mouillée d'armes secrètes, s'entend. Après 2 heures d'orgie intellectuelle menaçante à souhait, Werner fut d'abord transporté au sommet de l'escalier de secours et suspendu dans le vide pendant un quart d'heure, au bout d'une ficelle pas très solide. À sa manière de se tortiller, on comprenait qu'il souffrait d'un vertige affreux. Quand on le hissa jusqu'à la plateforme, il était tout bleu. Il fut ensuite redescendu à terre et torturé plus classiquement. On l'immergea à fond dans l'arme secrète pendant 1 minute, après quoi on le livra au talent de 5 vomisseurs gavés à souhait. C'était bien, mais notre agressivité restait sur sa faim. Nous ne savions plus quoi faire. Je me dis que le moment était arrivé. « Attendez, » murmurai-je d'une voix si solennelle qu'elle imposa le silence. Les enfants me regardèrent avec une certaine bienveillance parce que j'étais le bébé de l'armée. Mais ce que je fis m'éleva au rang de monstre guerrier. Je m'approchai de la tête du général allemand. J'annonçai, comme un musicien préciserait « Allegro manan troppo » avant un morceau, « Debout, sans les mains. » Ma voix avait été aussi sobre que celle d'Elena. Et je m'exécutais comme promis juste entre les 2 yeux de Werner qui s'écarquillèrent d'humiliation. Une rumeur transie parcourut l'assemblée. On n'avait jamais vu ça. Je m'en allais à pas lents. Mon visage n'affichait rien. Je délirais d'orgueil. Je me sentais frappée par la gloire comme d'autres par la foudre. Les moindres de mes gestes me paraissaient augustes.
J'avais l'impression de vivre une marche triomphale. Je toisais le ciel de Pékin avec superbe. Mon cheval serait content de moi. C'était la nuit. L'Allemand fut laissé pour mort. Les Alliés l'avaient oublié à cause de mon prodige. Le lendemain matin, ses parents le retrouvèrent. Ses vêtements et ses cheveux détrempés d'armes secrètes avaient gelé, ainsi que les flots de vomi. L'enfant contracta la bronchite du siècle, et ce ne fut rien comparé au dommage moral qu'il avait subi. Il y eut même un élément de son récit qui fit croire aux siens qu'il avait perdu la raison. À Sanlitun, la tension est-ouest atteignait son comble. Ma fierté n'avait plus de limite. À l'école française, ma renommée se propagea comme une traînée de poudre. Déjà une semaine plus tôt, j'étais tombée en syncope, et à présent, on découvrait mes talents de monstre. Pas de doute, j'étais quelqu'un. Ma bien-aimée le sut. Conformément aux instructions, j'affectais de ne plus m'apercevoir de son existence. Un jour, dans la cour, elle s'approcha de moi. Miracle sans précédent. Elle me demanda avec une vague perplexité. « C'est vrai ce qu'on dit ?»« Que dit-on donc ? » fis-je sans même la regarder. « Que tu le fais debout sans les mains et que tu peux viser. »« C'est vrai, » répondis-je avec dédain comme s'il s'agissait d'une chose très ordinaire. Je continuai à marcher à pas lents, sans un mot de plus. Simuler cette indifférence m'était une épreuve, mais le procédé se révélait si efficace que j'avais le courage de continuer. La neige arriva. C'était mon troisième hiver au pays des ventilateurs. Comme d'habitude, mon nez se transformait en dame aux camélias, crachant le sang avec une belle prodigalité. La neige était la seule chose qui pût cacher la laideur de Pékin, et elle y parvenait pendant les 10 premières heures de sa vie. Le béton chinois, le plus affreux béton du monde, disparaissait sous la blancheur confondante, confondante au sens double du terme, car elle confondait aussi le ciel et la terre. À la faveur du blanc parfait, il était possible d'imaginer que d'immenses parcelles de néant avaient envahi des morceaux de la cité, et à Pékin, le néant, loin d'être un pis-aller, faisait figure de rédemption. Par cette juxtaposition éphémère de vide et de plein, Sanlitun prenait des allures d'estampe. On se serait presque cru en Chine. 10 heures plus tard, la contamination s'inversait. Le béton déteignait sur la neige, la laideur déteignait sur la beauté. Et tout rentrait dans l'ordre. Les nouvelles neiges n'y changeaient rien. Il est frappant de constater combien la laideur est toujours la plus forte. Ainsi, à peine les flocons neufs atterrissaient-ils sur le sol pékinois qu'ils devenaient hideux. Je n'aime pas les métaphores. Aussi ne dirais-je pas que la neige citadine est une métaphore de la vie. Je ne le dirai pas parce que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde l'a compris. Un jour, j'écrirai un bouquin qui s'appellera « Neige de ville ». Ce sera le livre le plus triste de l'histoire des livres. Mais non, je ne l'écrirai pas. À quoi sert-il de raconter des horreurs que personne n'ignore? Alors autant s'en débarrasser une fois pour toutes. Qu'une chose aussi ravissante, aussi feutrée, aussi douce, aussi tournoyante, aussi légère que la neige puisse se transformer si vite en son contraire, un fatras gris, collant, figé, pesant et rugueux, est une saloperie dont je ne me remets pas. À Pékin, je détestais l'hiver. Faire sauter à coups de pioche et de racloir l'épaisse couche de neige gelée qui immobilisait le ghetto me déplaisait foncièrement. Et les autres enfants réquisitionnés pensaient comme moi. La guerre était suspendue jusqu'au dégel, ce qui peut paraître paradoxal. Pour nous dédommager de ces travaux de terrassement, les adultes nous emmenaient patiner le dimanche au lac du Palais d'été. Ces expéditions me semblaient trop belles pour être vraies. L'immense eau gelée qui réfléchissait la lumière boréale et qui hurlait des bruits terribles sous les patins, me mettait dans une telle extase que j'attrapais des maux de tête. Je n'avais pas de défense immunitaire contre la beauté. Les autres jours, dès que nous rentrions de l'école, pelle et pioche. Tous les enfants y étaient collés. À 2 exceptions près, et non des moindres, les très précieux Claudio et Elena. Leur mère avait décrété que ces petits étaient trop fragiles pour une si rude besogne. Dans le cas de la belle, il n'y eut aucune protestation. Mais l'exemption du grand frère accrut encore sa remarquable impopularité. Emballé dans un vieux manteau et une chapka chinoise en peau de chèvre, je m'évertuai à faire sauter la glace. Comme San Litun ressemblait à s'y méprendre à un pénitencier, j'avais l'impression d'être condamné aux travaux forcés. Plus tard, quand je serai prix Nobel de médecine ou martyr, je raconterai que, suite à des faits d'armes, j'avais purgé une peine au bagne de Pékin. Il ne me manquait plus qu'un boulet. Apparition. Une délicate créature vêtue d'une cape blanche vint au-devant de moi. Ses très longs cheveux noirs lâchés sortaient d'un petit béret de feutre blanc. Elle était si belle que je crus défaillir, ce qui eût été une solution avantageuse. Mais la consigne n'avait pas changé. Je fis semblant de ne pas l'avoir vue et je donnai un grand coup de pioche dans la neige gelée. « Je m'ennuie. Viens jouer avec moi. » Elle avait vraiment une voix d'hermine. « Tu ne vois pas que j'ai du travail ?» répondis-je aussi désagréable que possible. « Il y a bien assez d'autres enfants pour le faire, » dit-elle en désignant la multitude de gosses qui cerclaient la glace autour de moi. « Je ne suis pas une sainte nitouche, moi. J'aurais honte de ne rien faire. » J'avais surtout honte de dire une chose pareille, mais c'était la consigne. Silence. Je repris le dur labeur. Elena réussit alors un coup de théâtre. « Donne-moi la pioche !» dit-elle. Éberluée, je la regardais sans rien dire. Elle s'empara de mon outil, le hissa en l'air au prix d'un effort pathétique et le cala sur le sol. Puis elle fit mine de recommencer. Il me semblait n'avoir jamais vu sacrilège aussi insoutenable. Je lui arrachai l'instrument et lui ordonnai d'une voix très dure « Non, pas toi !»« Pourquoi ?» demanda l'hermine avec une expression angélique. Je ne répondis rien et je piochais, le nez par terre. Ma bien-aimée s'en alla à pas lents, très consciente d'avoir marqué un point.